pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire est rapportée par l'Union de Reims et se passe dans les Ardennes, à Raucourt et Flabat. Ce jour-là, le maire de ce bourg d'à peine un millier d'habitants, Jean Sonson, qui porte une petite soixantaine, part chasser. Sur son chemin, en poste à la sortie d'un fourré, Henri, son ami, un octogénaire, souffrant de surdité, bien qu'équipé d'un appareil auditif, attend le passage d'un chevreuil. L'animal passe enfin, Henri tire, et au lieu de l'animal, il atteint le maire en pleine poitrine. Son ami gémit non loin de lui, mais Henri ne l'entend pas. C'est un autre chasseur qui le découvre gisant. Il ne survivra pas à ses blessures. L'auteur du coup est condamné par le tribunal de Charleville-Mézières à 6 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de chasse. Il renonce à regret à une activité qu'il pratique depuis toujours. Dans le département, l'histoire qui a lieu en 2007 continue à faire grand bruit. C'est un tabou, on n'en parle pas ou peu. Elle soulève une fois de plus la question de l'état de santé des chasseurs âgés auxquels on ne demande rien d'autre qu'un permis de chasse. Chaque année ou presque, dans la région, un accident de chasse fait une victime, toujours d'après le quotidien ardennais. En 2006, par exemple, un homme de 38 ans est tué par son père, tandis qu'il braconne tous les deux la nuit. En 2005, au cours d'une battue, un homme tire par accident sur son fils de 11 ans. Et ainsi de suite, chaque année. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, d'autres histoires de chasse moins tragiques dans la même région, autour de Dampierre, dans l'Aube, au nord-est de la Champagne Ardenne, où a grandi Delphine Dilly, qui raconte aujourd'hui jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
À Dampierre, là où j'ai grandi, ils sont 30 sur 300 habitants à attendre avec impatience la saison de la chasse. Mon cousin Nicolas, lui, il chasse le canard.
Mon père, il chasse au canard depuis l'âge de 20 ans. Ils avaient déjà fait une hutte à Géraudot. Mon père, il venait me chercher à la sortie d'école à Dampierre. Hop, on montait dans la voiture avec Sybille, avec ma sœur, et puis nous emmenait à la hutte. On adorait ça aux gamins parce qu'en fait on était bah, avec nos parents, on mangeait ensemble dans une cabane, tu dormais dans une cabane, c'était sympa quoi. C'était pas forcément pour le canard côté gamin. C'était histoire de dire que tu dormais dans une cabane dans la plaine quoi. Donc tu vois, regarde là, bon, là t'as des cannes, t'as des malards, regarde les grilles, c'est des malards, t'as de la sauvagine. Dans la mare, t'as deux piquets qui sont espacés de 2-3 mètres. Et t'as une ficelle qui tourne autour avec des boucles. Puis t'accroches nos canards là-dessus. Hein, hop, on tire, on les emmène sur l'eau. Donc ils bougent pas de la nuit. Et puis le but, bah, c'est qu'ils appellent les autres. On appelle ça des appâts pour attirer les autres canards. Donc les chanteuses, elles, normalement, c'est elles qui chantent en premier. Donc si elles voient des canards qui sont vachement hauts, elles appellent. Ça les fait descendre. Et après, c'est aux canards qui sont sur l'eau de faire le boulot, de les faire poser.
Mais pourquoi elle les appelle en fait?
Bah parce que c'est des canards. Entre canards ils s'appellent. Bah oui. Et le but c'est de les faire poser dans le clair. Alors ce qu'on appelle dans le clair, c'est où on n'a pas mis de canard devant la hutte pour pouvoir tirer. Et donc quand ça marche, ça ça veut dire qu'on a des bons canards.
Nicolas s'occupe donc de ses appâts et il les emmène tous les vendredis soirs à la hutte en voiture.
Alors donc on était avec Jérémy, on était que tous les deux. Et donc nous on est l'équipe du vendredi. Et t'as l'équipe du samedi, le voisin, Polo. Et en pleine nuit, à 1h du matin, ils nous ont réveillés en faisant le cri d'oie. Donc nous on était aux guignettes. Donc les guignettes, c'est la petite trappe que t'ouvres pour passer le fusil. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une grosse oie. Alors c'était une grosse oie énorme, avec une tête, on a l'impression que c'était une tête de chien, énorme. Alors avec Jérémy, tout excité et tout, parce que nous, c'était la première fois qu'on voyait une oie. Posée, c'était la première fois qu'on allait tuer une oie. Alors c'est tout, on se la met en joue, donc on vise. Et là, Bam, on tire. Et là, on l'a. Alors, il était super content, là. Donc, Jérémy prend la barque pour aller chercher l'oie. Et au moment de soulever l'oie, il y avait un petit nœud de papier cadeau accroché à la patte. Et puis les autres qui ricanaient là dans au bord de l'étang. Ils nous ont fait une blague, ils sont venus en pleine nuit. Ils ont ramené une oie de Belgique, parce qu'ils revenaient de là-bas. C'était une oie...
Offerte.
Donc voilà, quoi.
Blague à part, je dois tenir ma trouille des fusils à l'histoire qui a marqué le village quand j'étais gamine. Si je traînais tous mes week-ends et vacances avec la bande de mes cousins, mais ce jour-là, je n'y étais pas.
J'avais 12-13 ans. Je savais où étaient les fusils à mon père. Et à cette époque-là, les fusils, ben, ils étaient dans le sous-sol. L'armoire à fusils n'était pas encore obligatoire. Donc il mettait ses fusils en évidence. Et il n'y avait personne à la maison. Et puis avec les cousins, ben, on a décidé d'aller faire du tir au plomb. Mais bon, nous, on pensait que c'était des petites bosquettes que tu tires au 14 juillet pour faire les cartons ou sur les foires. Mais bon, c'était pas des plombs, c'était des balles. Des balles qui portaient vachement loin. À 1,5 km, ça pouvait tuer quelqu'un encore. Puis en fait, ben, on a été dans le jardin, on a commencé à mettre des tomates sur les pieds de tomates, à essayer de tirer les tomates. Et puis en revenant, dans la descente du sous-sol, j'ai vu qu'il y avait un bourdon sur une fleur. Donc j'ai remis une petite balle, j'ai mis mon bout du fusil au bout du bourdon, et puis j'ai tiré. Et en face, c'était des tuyaux. Mais derrière, c'était la voisine. Pour moi, je voyais un mur, donc... On a tiré. Et puis en fait, eh ben, la balle allait rentrer dans le carreau de la cuisine, a traversé la cuisine, taper le mur. Bon, bah, ça. Il y aurait eu quelqu'un derrière, mais je l'ai tué, quoi. Le voisin est venu. Et donc j'étais en train de faire mes devoirs. Le voisin a dit à ma mère bon, bah, écoute, j'accuse pas les gamins, mais il y a une balle qui est rentrée dans ma cuisine. Et ça vient de chez vous. Donc maman m'appelle, me demande si on avait tiré au fusil, donc hein, bien entendu j'ai dit non. Hein. Donc maman a attendu que mon père rentre. Bon, ben, mon père tout de suite il était au sous-sol, il a senti la poudre. Après il fallait avouer. Donc on a été s'excuser. Puis après j'ai pris la trempe de ma vie. Et en fait il m'a dit que c'était des balles pour tuer du gros gibier. C'était pas des petites bosquettes pour tirer des cartons. Et en fait, papa, il s'en voulait parce que lui, pour lui, c'était de sa faute. Quoi, parce qu'il y a des fusils, ils étaient là. Et puis, ce jour-là, il a pris une armoire à fusils.
Et tu l'avais tué, le bourdon, ou pas, alors, finalement?
Non, je pense qu'il est mort. Oui, oui, là, il est plus là, lui. Il n'est plus là.
Puis j'ai rencontré Biliana, qui elle ne chassait pas, jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme qui lui était chasseur depuis longtemps et qui a voulu l'emmener avec lui.
C'était fin décembre, début janvier, il faisait froid, vraiment vraiment très froid, avec de la brume, il n'y avait pas de neige. Et donc ça commence très tôt, on a le rendez-vous de chasse qui en général est vers 8h du matin. Les places sont distribuées dans le sens, il y a des gens qui sont rabatteurs et il y a des gens qui sont postés avec leurs fusils. Et donc moi, je me suis retrouvée pour la première fois à rabattre. Donc tu tapes dans tes mains, comme si tu applaudissais. On tape aussi avec les bâtons dans les ronces. Tu fais oh, 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 enfin tout ce que tu peux faire comme bruit assez fort pour faire sortir l'animal de sa cachette. J'étais un petit peu inquiète parce que je pensais qu'on était tous très près les uns des autres. Et en fait, on est à une vingtaine de mètres chacun en ligne droite. Et pour savoir s'il y a quelqu'un à côté de toi, il faut signaler avec le signal hop 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 à droite, hop 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 à gauche, et on te répond s'il y a quelqu'un. Mais tu ne vois pas les personnes. C'est ça qui était un petit peu impressionnant. Déjà, tôt le matin, en hiver, il fait nuit. Et on est, c'est pas une promenade dans la forêt, tranquillement, sur un chemin qui est lagué et tout propre. C'est vraiment dans les ronces. Et là, il faut sauter, on se pique, on rampe. J'avais l'impression d'être un peu Rambo à 8h du matin. Pas très réveillée d'ailleurs. Et j'ai complètement oublié de dire hop 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 à droite ou à gauche. Et j'ai rampé pendant pas mal de temps. Et en sortant de ce fameux roncier, en fait, je me suis rendu compte que j'étais toute seule. Tout le monde était déjà, avait bien avancé. Et je ne me suis pas précipitée parce que je ne savais pas vraiment vers où aller. J'ai continué à marcher tranquillement. Et j'ai eu ma première rencontre avec un sanglier, je pense qu'il devait faire dans les centaines de kilos, qui est apparu tout doucement, parce que je pense qu'il n'était peut-être pas très réveillé non plus. Et là, donc, j'ai eu peur. Donc, ce sanglier, il est passé vraiment à, je pense, 3-4 mètres devant moi. Il a traversé tranquillement et moi, je suis restée immobile, toute raide. Il a traversé. Moi, après, j'ai couru tout droit, le plus vite possible. Alors, avec des bottes, c'est pas très évident de courir, mais j'ai couru quand même. Et j'ai retrouvé les autres qui étaient peut-être à une centaine de mètres, 100, 150 mètres devant moi. J'ai raconté l'histoire et ils étaient bien évidemment contents. Sauf que c'était dommage que je ne me suis pas manifestée plus tôt, parce qu'on aurait pu effectivement peut-être aussi faire partir le sanglier vers les tireurs pour que la chasse se fasse. Moi, j'ai pas regretté le fait de pas l'avoir signalé, parce que j'ai eu une belle rencontre et comme ça, il a pu faire tranquillement son chemin. Voilà. Alors déjà aussi, il faut savoir que c'est aussi les rabatteurs qui vont chercher avec les chasseurs les animaux donc, qui ont été touchés et morts. Donc toujours dans ces petites camionnettes, on était déposés au départ de la chasse. Là, on remontait dedans et puis on partait pour chercher les animaux dans la forêt. Alors moi, j'étais assise dans la camionnette, je ne suis pas descendue, j'étais un petit peu fatiguée et j'avais pas mal rampé. Donc du coup, on m'avait laissé me reposer dans la petite camionnette. Et j'étais en train de regarder mes pieds tout simplement. Et là, tout d'un coup, on a posé donc, le chevreuil. On l'a même un petit peu jeté à l'arrière. Et j'ai eu sa tête sur mes pieds. Il était très, très beau et les yeux étaient ouverts. Et on voyait comme des larmes en fait, qui sortaient des yeux. Et presque le dernier regard en fait, avant de mourir. Et là, j'ai les larmes aux yeux parce que ce regard triste et perçant en même temps, ça m'avait fait pleurer. Mais je me suis cachée pour pas que les gens le voient. Alors, par la suite, j'ai un petit peu moins participé dans le, on va dire, ramassage des animaux morts. Mais plutôt, rabattre et les voir courir, les voir éventuellement passer à côté. Voilà, c'était la partie que je trouvais la plus agréable pour moi, en tout cas.
France Culture, les pieds sur terre.
Plus tard dans le week-end, je suis allée voir Jacques, qui ne m'avait pas revue depuis que j'avais 5 ou 6 ans.
J'ai des poules et des tourterelles.
Après avoir travaillé dans les cochons, Jacques est devenu le responsable environnement d'une ferme.
T'en as plein là de ton atelier ?
Oui, il y en a trop. Il faut que je les mette dehors.
Je pense que c'est le seul à faire ce métier dans l'Aube, qui est une région de culture intensive. Lui, il essaye de recréer des écosystèmes, des haies. Il m'a dit que ça ne marchait pas toujours, mais au moins, il essaie.
J'ai eu un électrochoc à l'âge de 8 ans. Personne dans ma famille chassait et j'ai accompagné les voisins. Et le voisin, il s'appelait Hubert et je suivais Hubert partout. Hubert, c'était mon dieu. Parce qu'il allait à la chasse, lui. Et je dormais pas à la veille de l'ouverture. C'était terrible. Ils avaient un peu des traditions vieille France où on réunit toute la petite bourgeoisie locale. Il y avait monsieur un tel de Troyes qui dirigeait l'usine ceci, l'usine cela. Alors, fallait qu'il soit bien placé. On mettait des ballots de paille dans les bennes de tracteurs. Et on promenait tout le monde dans les bennes avec des ballots de paille pour s'asseoir. Il y avait, je pense, 50 personnes.
Ouais.
Et on tirait des perdreaux. Et c'était un peu nul comme chasse, parce qu'il y avait des rabatteurs. Et puis, c'est pas vraiment de la chasse, quoi. C'est du tir au pigeon, quoi. Après, quand j'avais 16 ans, ça m'amusait pas du tout. Donc, je chassais tout seul. J'avais mon petit chien. Et puis, je tirais deux bécasses par an. 4 lapins et 10 pigeons, j'étais heureux, ça suffisait. C'était extraordinaire pour moi, c'était... Ça me fascinait. Et perdreau, je trouvais ça fantastique. C'est un gallinacé, c'est de la famille des poules. On a des perdreaux gris, on a des perdreaux rouges, on a des cailles et des faisans dans le coin. Tout ça, c'est des gallinacés. Et j'ai toujours adoré les gallinacés. Ça m'a longtemps posé problème. J'aime les animaux, mais je les tue. C'est une espèce de communion par le sang. Je ne sais pas expliquer ça. Avec le recul, c'est vraiment ma soif de comprendre l'écosystème, de comprendre la biodiversité. Qui est-ce qui marche avec qui? Comment ça fonctionne? Comme je suis très curieux, ben, je voulais aller chasser ailleurs. Je suis allé en Asie en tant que guide de chasse pendant 15 ans, entre 4 et 8 fois par an. Je suis allé en Russie, je suis allé au Kazakhstan, en Iran, en Azerbaïdjan, en Chine, en Mongolie, au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. Pour chasser, toujours dans les montagnes, entre 2500 mètres et 5000 mètres d'altitude. En Chine, on est allé dans une vallée assez reculée. Il y avait eu l'électricité, mais il n'y avait plus. Il labourait le champ avec des vaches, il semait du maïs. On était au 15e siècle, quoi. Et on est rentré dans une maison, on dormait dans une maison. Et là, il y avait des collets et des pièges partout. Donc lui il n'avait rien à manger. Et son métier, c'était de poser des collets pour manger. S'ils se font prendre, ils risquent la peine de mort, mais ils n'ont pas le choix. C'est usant hein, de partir 6-8 fois par an. On dort dans une tente à 3000 mètres d'altitude et à moins 15. Au bout d'une semaine, on est un petit peu défraîchi. Hein. Et à 48 ans, on n'a pas la même niaque qu'à 33.
Mais tu vas continuer à être guide alors?
Moins. Mais oui, je continuerai à y aller.
On chassait tout un petit groupe, on était 5-6. Au premier lièvre, on buvait une bouteille de blanc.
S'il vous plaît, vous écoutez, là, deux secondes.
Donc, pour ceux qui n'étaient pas abattus hier, donc pour l'instant, en prélèvement, il y a 33 faisans, 29 lièvres. Donc le faisan aujourd'hui il est fermé. Hein. Tant pire pour ceux qui ne l'ont pas tué ou pas tiré. Et donc le lièvre il ferme ce soir. Donc,
on est obligé de le tuer.
Là, vous faites comme vous voulez.
Hein. Et si on le fait, c'est pas vrai.
Bon bah sinon vous pouvez y aller. Hein.
Allez,
marchez dans la plaine.
Ici, c'est un endroit qu'on connaît depuis longtemps, puisqu'il appartient à la famille depuis les années 55-56, et donc c'est un endroit qu'on a toujours plus ou moins connu. Bon, j'en suis tombé amoureux, moi je le connaissais d'être venu une paire de fois. Donc on a décidé de le louer avec quelques amis et d'y partager quelques bons moments. Ce que je préfère. La passée, c'est quelque chose de magique.
C'est quoi la passée?
Eh ben, la passée, on chasse le soir à la tombée de la nuit, on se positionne autour de l'étang et les animaux viennent d'autres étangs pour se nourrir et tout ça. Et donc, c'est pas des prélèvements qui sont énormes. Quand on fait 2-3 canards dans la soirée, c'est déjà bon, on est bien content. Mais c'est la magie de la passée, le soleil couchant au fond de l'étang, l'ambiance de chasse, le vent dans les roseaux, les animaux qui passent, on entend des bruits d'ailes, on les aperçoit, on tire pas, on s'en fout, mais c'est la magie de la passée, en fait.
On tire sur des fantômes.
Oui, on est quelques fois, on tire sur des fantômes, sur des ombres.
Sur des ombres. Quand tous les oiseaux se taisent, et tu vois comment ça arrive les chauves-souris, c'est le moment. Hein.
Et la chouette, quand la chouette ulule, c'est la bonne heure. Voir les chiens, chasser, voir tout ça, c'est un plaisir incommensurable. Être en osmose avec son chien, que le chien partage la même passion que vous, c'est quelque chose que seul un chasseur peut connaître.
Tu reviens là, t'es trempé, il y a le feu dans la cheminée, on se met là.
On se retrouve après la chasse autour d'un petit casse-croûte, d'un petit apéritif. Ouais. On se raconte les bons moments de la journée. T'as vu le canard là? Oui, bah, j'ai entendu, il est passé là, il est revenu là. Oui, mais il est reparti, on ne l'a pas tiré. Bah, c'est pas grave, on a passé un bon moment.
Les jeunes maintenant, ils sont beaucoup plus
sensibilisés
à ça. Oui. Moi, j'en ai eu un pupille que j'ai formé en chasse accompagnée, qui n'avait pas de permis de chasse. Et j'ai été très heureux de chasser une année avec lui. D'ailleurs, je lui ai fait tuer son premier sanglier. Pas très bon, mais il l'a tué. Et le gamin, il m'en est éternellement reconnaissant et il est très, très prudent. Ne charge sa carabine qu'à son poste. Aux trois coups, il a des charges. Trois coups, ça veut dire...
Fin de chasse.
Il décharge son arme. Il est fantastique, ce jeune-là. Il va avoir 18 ans cette année. Et je suis très heureux de l'avoir parce que c'est une responsabilité. Hein. Ça fait peur, hein. Je me rappelle ce matin-là, il y a 30 cochons qui arrivent, droit sur nous. Hein. J'ai dit, mets-toi à gauche, jette-toi à gauche, moi je me jette à droite. Ils ont passé entre nous. Hein. Il n'a pas tiré, il y en avait une trentaine, puis il y en avait des bouts. Hein.
Mais là, il n'aurait pas fallu qu'il tire dessus, là, il fallait se protéger, là.
Il n'a pas tiré. J'avais dit non, c'était non. L'après-midi, j'ai dit oui, yes, shoot, et malheureusement, c'était une grosse lait. Ça m'a coûté 3 dimanches sans chasser, plus 75 euros.
Ouais, parce qu'il avait tué une femelle.
Voilà.
Ça fait partie du règlement intérieur et de la gestion de la chasse. Si vous voulez du gibier et que vous tuez les reproducteurs, vous ne pouvez pas avoir de gibier l'année d'après. Donc pour éviter que les chasseurs se laissent un peu aller, il y a un règlement intérieur qui est édité par chaque chasse qui dit, bon, si vous tuez une laie reproductrice de tant de kilos, par exemple, etc., etc., vous aurez... c'est pas forcément l'argent qui punit le chasseur, c'est le manque de chasse. Priver un chasseur de chasser pendant 1, 2, voire 3 dimanches, là, ça l'atteint quand même de façon un petit peu plus importante. Et donc, c'est une façon de le punir, quoi, pour sa mauvaise action. Parce que le but du chasseur, quand vous êtes à la chasse, la grande satisfaction d'un chasseur, c'est pas de tirer sur tout ce qui bouge.
Non.
C'est de respecter les consignes qui ont été édictées le matin par le patron de chasse, qui dit aujourd'hui on tire un cerf de telle taille, de tel âge, avec une ramure de tel type, etc. Enfin, je vous passe les détails parce que ça peut devenir trop complexe. De tirer des sangliers de moins de 40 ou 45 kilos, par exemple, de tirer un gros mâle bien armé, etc., etc. Donc, quand vous voyez une bande de 20-30 sangliers et que vous identifiez au milieu de cette bande-là un petit jeune ou un gros mâle ou ceci, cela, et que vous le tuez, et quand vous allez ramasser votre animal... Vous avez réussi ça, c'est ça qui fait l'intérêt de la chasse. Tirer sur tout ce qui bouge, ça n'a aucun intérêt.
me rappelle ce petit jeune-là. Un jour, j'ai un cheval. Il m'arrête au moment où on rentre de midi. Il me dit, Philippe, arrête, arrête. J'arrête, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je crois que j'ai peut-être fait une connerie. Il me dit, j'ai tué un chevreuil. Il me dit, tu veux pas descendre voir? Je descends de la voiture. Je vais regarder l'animal et puis je le vois tout de suite. Oh, j'ai dit, là, mon pépère, j'ai dit, t'es pas trop bien. Hein. À mon avis, c'est une belle chevrette. Il me dit non, il a deux petites bosses là, sur le crâne. J'ai dit alors à mon avis, c'est pas une chevrette. C'est un petit chevrillard de l'année. Quand je l'ai vu, il m'a regardé. Viens, je t'embrasse. Il a eu peur.
D'avoir tué une femelle.
Ouais. Oui, bah oui. Bah oui. Et il avait tué un chevrillard. Je te félicite. Sur le domaine là, ici, il y a un coq-faisan noir qui est depuis l'année dernière, qui a survécu à notre chasse. On sait où il est. Et tout le monde dit, celui-là on le tire pas. Ça fait plus d'un an qu'il est là. Et on le tue pas. Parce qu'on a des
cœurs. Parce qu'on est respectueux. On est respectueux. C'est un faisan qui a échappé à toutes nos chasses, ouais. Qui a été malin. C'est un grand malin. Oui. Et ben on respecte son intelligence de gibier et de survie qu'il a eu depuis plus d'un an et respect.
Ça fait plus d'un an qu'il est là. On pourrait l'avoir tué 20 fois, 30 fois, 40 fois. Mais non, c'est le noir qu'on a là, on le garde.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec des histoires de chasse, un reportage de Delphine Dilly, réalisé par Emmanuel Geoffroy et diffusé pour la première fois dans Les Pieds sur Terre le 18 novembre 2014. Merci à Nicolas, à Jacques, à Biliana, à Jean-Michel, à Philippe, à Serge, à Jean-Claude, aux chasseurs de Dampierre, aux chasseurs et amis de la cabane de l'Étang, à Joseph, à Éléonore, à Kevin, à Anne. Et à Jean-Marie, c'est Sandrine Chapon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Autain, notre stagiaire. Et c'est François Connac qui s'est occupé de cette rediffusion. I've got nothing that's true but this song.